Dans quel monde?
Une émission pensée et animée par Marie-Hélène Bourret et
Alexis Gagnon. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors nous sommes dans une nouvelle émission. C'est une émission qui est en quelque sorte le prolongement logique de la belle complicité qu'on a entretenue au cours des deux saisons du Débrief.
Absolument.
La défunte émission du Débrief qui était à l'antenne du 107.9 FM et qui était une quotidienne d'actualité en fin de journée, retour à la maison. On avait de belles chroniques dans cette émission et quand l'émission a pris fin, on s'est dit non.
Ça finit pas là.
Ça n'est pas la fin.
Non.
Ça continue sous une forme hebdomadaire.
Hebdomadaire cette fois-ci, une espèce de petit magazine politique, un commentaire peut-être sur les sociétés, autant au point de vue international, provincial, national et local.
Voilà, donc tous les étages, toutes les échelles sont concernées. On va parler d'actualité, on va être dans le vif de l'actualité, ce sera toutes les semaines à 16h le jeudi et en reprise le samedi à 11h. Sans plus tarder, on va commencer aujourd'hui après le petit interlude musical. Donc, à tout de suite, restez bien accrochés
à vos postes radio.
À vos postes radio pour cette nouvelle émission. Bye, Kevin. Donc, pour cette première émission, Marie-Hélène, on a une revue de presse qui est effectuée dans l'une de nos publications préférées.
Le Taï.
Le Taï de taï.ca. Taï qui signifie saumon en langue autochtone locale.
Et qui veut dire aussi chef.
Qui veut aussi dire par extension chef, ouais. Champion.
Ouais.
Donc, thetaï.ca. Et si vous connaissez la rue Taï à Victoria, vous savez que c'est T-Y-E. Donc, cette revue de presse a un thème commun. Ce sont des articles qui ont paru dans le Taï récemment, au mois de janvier. Et le fil rouge, le thème, c'est le coût de la vie chère. C'est un sujet extrêmement d'actualité.
On en a parlé beaucoup dans les dernières années, ici, surtout avec l'augmentation du coût des maisons, du coût des loyers, ici en Colombie-Britannique. Et je pense...
On peut peut-être juste commencer par citer les quatre titres de cette revue de presse. Donc, toujours dans le Taï, signé par Andrew McLeod, article numéro 1, « Time to scrap the homeowner grant ». Donc, c'est le moment d'abandonner les subventions aux propriétaires de maisons. Aussi dans le Taï, sous la plume de William E. Rees, Why the Housing Crisis is Really About Globalization.
Très intéressant cet article-là.
En effet, un long article d'analyse qui fait vraiment bouger les neurones. Ça m'a vraiment fait réfléchir
d'une autre façon.
Énormément. Ensuite, article numéro 3, toujours dans le Taï, sous la plume de Graham Riches, Dear Premier, Don't Promote Food Banks and the need for them. Donc, cher Premier ministre Horgan, cessez de faire la promotion des banques alimentaires. Faites plutôt en sorte qu'on n'ait plus besoin d'elles.
Absolument.
Et finalement...
Si on a le temps.
Si on a le temps, ouais, effectivement.
Parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche.
Parce qu'on a mis la barre très haut, étant...
Pour notre première émission.
Très ambitieux, très enthousiaste.
Il y en a juste une demi-heure.
Et oui, ça passe très vite. Donc, sous la plume d'Andrew McLeod, finalement... Horgan supports cheaper hydro for low-income residents. Donc, c'est une, en quelque sorte une bonne nouvelle.
Ouais.
Premier ministre Horgan qui est en faveur d'un gel tarifaire des frais d'électricité.
Ouais.
Voilà. Donc, BC Hydro qui pourrait geler ses tarifs si Horgan tient sa promesse.
C'est ça.
OK.
Alors, on commence avec « Time to scrap the homeowner grant ». D'abord, qu'est-ce que c'est le « homeowner grant » C'est que les gens qui achètent une maison en Colombie-Britannique ont droit à un petit retour, si on veut, de la part du gouvernement. C'est vraiment, c'est tout petit, là. On parle dans les 500-600 $.
Ouais.
Ce n'est pas un gros montant. L'article est très intéressant parce que...
En région vancouveroise, c'est autour de 570.
Ouais.
Et ailleurs en province, c'est plutôt autour de 770.
Ouais.
Et dans le cas de personnes âgées, ça peut être un petit peu plus encore.
Petit peu plus.
Donc, c'est quand même des sommes dérisoires.
Ça paye peut-être la moitié de tes assurances pour ton année.
Oui.
Ou si t'es plus âgé, toutes tes assurances.
Et c'est un versement unique, hein?
C'est un versement unique.
Voilà.
Alors, il y a quand même beaucoup de transactions qui sont faites. Alors, il faut partir de ces prémices-là qu'il y a beaucoup de transactions immobilières qui se font.
À qui le dis-tu, en Colombie-Britannique?
Oui. Ouais. Et ce montant-là, si on additionne tous ces montants qui sont donnés, on dit que ça représente 825 millions de dollars.
Oui. C'est l'enveloppe.
C'est énorme. 825 millions, c'est énorme.
C'est tout près du milliard, effectivement, et c'est indexé au marché. Donc, si les prix des maisons montent, cette enveloppe-là monte, elle aussi, c'est corrélé.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? C'est que, en fait, ce montant-là n'aide pas vraiment l'acheteur de la maison. OK, une petite shot, là, on va faire la peinture dans la maison, on va changer le tapis du salon, c'est à peu près le coût. Même à 570, c'est pas un grand tapis.
C'est clair.
Alors, on dit, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cet argent-là à d'autres fins? C'est sûr qu'au point de vue politique...
Mais toujours dans la sphère du logement, du mieux logé.
Oui, du mieux logé. Les gens qui sont capables de se payer une maison. Alors, selon l'association, le BC Nonprofit Housing Association, entre 117 000 et 500 000 familles louent dans la maison. Alors, ce sont des gens qui n'achètent pas de maison, ce sont des gens qui louent.
Ici dans la province.
Ici dans la province. Et ces gens-là payent plus que ce qu'ils peuvent vraiment payer. OK? Donc, on dit, je pense que c'est le tiers de ton revenu que tu devrais calculer comme étant ton loyer. Alors, entre 117 000 et 500 000, il y a demi-million de personnes qui louent et il y a 117 000 là-dessus qui ne peuvent pas payer leur loyer. Ils payent, mais on coupe dans la nourriture. Alors, pourquoi ne pas utiliser cet argent-là, ces 825 millions, tout près d'un milliard de dollars, pour construire des maisons à loyer modique.
Voilà. Donc, c'est ça le fin mot de l'histoire. Il y a un long préambule.
Ouais.
Et finalement, on y arrive dans cet article. Il faut construire du logement abordable, du logement social, pas seulement en région vancouveroise, partout dans la province où c'est nécessaire. Et une enveloppe d'environ 2,5 milliards de dollars serait nécessaire pour y arriver. Donc, c'est pas non plus...
C'est 3 ans de retour, là. C'est 3 ans de retour aux nouveaux acheteurs. Alors, si on multiplie 875 par 3, on est dans 2,5 milliards.
Et cet article signé par Andrew McLeod pointe vers un rapport de Mark Lee, un économiste du Centre canadien des politiques alternatives, un rapport qui a été publié en 2016 qui s'intitulait « Getting Serious About Affordable Housing », un rapport dans lequel il était recommandé de construire du logement abordable, du logement social.
Oui, parce qu'on aura beau augmenter le salaire minimum, tout va augmenter en fonction. Je veux dire, on a vu avec ce qui s'est passé en Ontario avec Tim Hortons.
C'est le principe de base. Oui, il y a des réfractaires, il y a des entrepreneurs réfractaires, évidemment. Il y a peut-être un effet d'inflation lorsque tout le monde a un pouvoir d'achat augmenté.
Ouais.
Forcément, les prix à la consommation peuvent augmenter eux aussi. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça peut se produire comme ça. Et juste pour terminer sur ce sujet, Oregon avait promis que les locataires aussi auraient une enveloppe pour eux parce qu'ils n'en ont pas actuellement. Seuls les gens qui achètent un bien immobilier reçoivent cette subvention. Donc, il serait temps peut-être d'aider les locataires. Mais dans le fond, c'est pas ça la solution.
C'est pas ça la solution.
Il faut scraper ça, comme on dit dans le titre.
Ouais. Et on dit, pourquoi est-ce que c'est pas fait? Ben, c'est parce qu'on va enlever une enveloppe à des gens qui la reçoivent.
Oui, en fait, c'est de l'impôt. C'est-à-dire, on paye en impôt, après ça, on en retouche un petit peu.
Oui.
C'est un genre de cycle dans lequel la bureaucratie
prend beaucoup d'argent.
Prend beaucoup de temps et de ressources, et finalement, on n'est pas gagnant. Alors, il faudrait construire du logement social.
Oui. Mais il y a une autre solution, et ça, c'est dans le prochain article, « Why the housing crisis is really about globalization ».
Excellente transition. Peut-on traduire le titre encore une fois?
Pourquoi est-ce que la crise du logement est vraiment un problème de globalisation?
De mondialisation.
De mondialisation. C'est écrit par William E. Rees.
Dans le taillis.
Dans le taillis, toujours. Et si vous avez le temps, allez le lire si ça vous est possible.
Oui.
Très intéressant. Et comme tu disais tantôt, Alexis, ça ouvre une espèce de réflexions différentes. On voit sous un autre angle. Dis-moi donc, toi, qu'est-ce que t'en retiens de cet article-là?
Alors, le chroniqueur d'entrée de jeu indique que la situation est complexe, hein?
Oui.
Mais il souligne que la crise du logement n'égale pas pénurie de logement.
Et voilà.
Et ça, c'est vraiment crucial.
Ouais, c'est ce qui m'a frappé. Les chiffres sont incroyables.
Sont incroyables. Alors, des logements vides en Colombie-Britannique, il y en a des quantités astronomiques.
Ouais.
Alors, on peut tout de suite parler de la région vancouveroise,
ouais.
25 000 logements inoccupés.
Alors ça, c'est des maisons et des condominiums qui sont achetés, qui appartiennent à quelqu'un, qui sont pas délabrés et qui sont vides.
Pourquoi?
Ben parce que souvent, c'est des gens qui vont venir investir de l'argent ici parce que on est parmi les 10 pays les plus meilleurs au monde, comme disait Jean Chrétien. Et on est donc un endroit où il y a une stabilité économique, politique.
Et
Vancouver,
effectivement,
quand même, une belle température.
Très attractif, comme on dit dans les écoles de commerce.
Très attirant.
Très attrayant.
Ouais.
Et donc, je vais juste continuer. 11 000 à Surrey, 6 000 à Burnaby, 4 000 à Richmond. Donc, ça fait 36-42, près de 50 000 logements inoccupés dans la seule région
du Grand Vancouver.
Donc, la pénurie, c'est une vue de l'esprit, elle n'existe pas.
Ce n'est pas une pénurie.
Il y a plein de logements de vide qui sont comme des lingots d'or utilisés par l'élite bourgeoise mondiale qui se sert de biens immobiliers, comme on achète des tableaux pour spéculer, on achète... de l'or, donc ce sont des biens spéculatifs et ils sont tellement dans cette logique-là qu'ils oublient de louer les logements.
Oui.
Alors les logements, c'est juste des actifs.
C'est des actifs.
Ça n'est plus des milieux de vie.
Non.
Donc c'est ça le problème.
Il est là le problème et c'est les extrêmement bien nantis qui peuvent se permettre là, ça. Les gens qui peuvent avoir une résidence secondaire. en Espagne, en Californie, à Toronto, et qui ou bien n'habitent pas du tout là-dedans ou ils viennent une fois seulement de temps en temps. Alors, on parle aussi du prix que ça a causé. Donc, ces gens-là, quand ils viennent ici, ils peuvent payer. C'est un investissement pour eux. Ils peuvent payer et ça a une espèce d'effet d'entraînement qui fait augmenter les prix.
Mais oui.
Ça, c'est... Ah, regarde, la maison à côté, c'est vendu 1 million. Je vais essayer la mienne en 100. Et puisque ces gens-là sont sur le placement à long terme, ils vont aller le payer l'11 million.1, là.
Et le logement sera pas plus occupé dans ce cas-là. L'auteur rappelle que Vancouver n'est pas une ville à haut salaire.
Hein? Non, c'est un salaire minimum ici comme ailleurs.
C'est pas San Francisco, là. Les salaires, ils cassent pas la baraque
à
Vancouver.
Non.
Donc, la population locale se trouve en compétition avec cette élite, ce bassin d'acheteurs fortunés qui, eux, arrivent sur Vancouver et font main basse sur les biens immobiliers et les laissent inoccupés. Alors, il y a eu des petites mesures pour empêcher les loyers inoccupés.
Une taxe sur les loyers inoccupés,
Il y a eu la taxe imposée aux acheteurs étrangers, mais seulement dans la région de Vancouver.
Ouais.
Bon, qui a déplacé un petit peu le problème ailleurs.
Ici, maintenant.
Voilà. Et quelque part, l'auteur ajoute en substance que le travailleur vancouverois se trouve en compétition
avec ces extra-riches-là.
Lui qui était déjà en compétition avec le tiers-monde.
Ouais.
Parce que si tu travailles dans une usine à Vancouver, t'es en compétition avec le tiers-monde.
Ben oui.
Alors, t'es en compétition avec les travailleurs du tiers-monde et avec l'élite mondiale qui appartient au 1% et qui peut acheter des immeubles comme ça, comme on achète des petits blocs Lego et qu'on fait fructifier. Et
multiplier, en
fait.
Mais il y a quelque chose, moi, qui est venu vraiment comme donner un coup sur le clou. C'était son explication de la dynamique anthropologique presque, où il dit ben les espèces sont toutes en compétition les unes avec les autres et l'humain, malheureusement, a éliminé plusieurs espèces, a changé la géographie, a changé, bon, on connaît tout l'histoire de l'environnement avec l'être humain. Mais là, il dit maintenant, on a une autre façon d'entrer en compétition avec les humains. Alors, avant, c'était une question de territoire. Fallait envahir un pays pour être capable d'occuper la ville en question avec notre monde à nous autres. Mais il dit maintenant, ce n'est pas ça. Il y a des grosses corporations, il y a des pays qui vont acheter des terrains et on parle de millions d'hectares pour certains pays.
Ben, la Chine a acheté l'Afrique. On a vu que la Chine avait acheté des superficies inconcevables, incroyables.
Ça s'appelle le land grabbing.
Land grabbing.
Alors, c'est l'appropriation de la terre. Et ces gens-là, mais grabbing, ça a plus une
main basse.
Poignée,
On
va l'attraper avant qu'il sauve. Et ça, encore là, c'est des banques, des corporations, des fonds d'investissement, des investisseurs publics, comme des entreprises, des gouvernements. On a vu que la Banque de Chine avait plusieurs de ces condos-là, de 25 000 habitations qui sont disponibles.
Ça ne m'étonne pas. Et ce que j'aime aussi dans ce texte-là, c'est la franchise de l'auteur, William Eyries, dans le Taï. À la fin de son article, il dit que le problème est probablement insoluble. Alors, il veut pas nous entretenir, il veut pas nous faire de nous causer de faux espoirs. Ouais. Il indique tout au plus que du côté politique, il y aurait Andrew Weaver, le chef du Parti vert, qui a proposé de bannir, d'interdire complètement la propriété étrangère de nos biens immobiliers. Ça pourrait être un début de solution, mais on est très loin de rassembler la volonté politique là-dessus.
Oui, surtout parce que le Canada est plutôt une terre d'accueil. C'est bon, là, en soi, là.
Absolument.
Mais les investissements étrangers, il faut les surveiller parce qu'ils vont s'approprier toutes nos terres arabes. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir
Il y a le logement à Vancouver, il y a les terres arabes aussi.
À Lokanagan.
Oui, j'imagine que ça se compare bien.
Oui, ça se compare. Ben, je pense qu'il en parle dans l'article où je l'ai lu dans un article connexe. Donc, faut faire attention à ça parce que quand on s'approprie nos terres, les Premières Nations ici peuvent le dire et ils en sont témoins. On s'est approprié leurs terres. Maintenant, ils vivent dans des endroits incroyables. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention.
Absolument. Donc, on peut rappeler l'intitulé de cet article paraissant dans le quotidien de Taï. Why the housing crisis is really about globalization. Pourquoi la crise du logement et de la propriété en Colombie-Britannique est en fait liée intrinsèquement au phénomène de la mondialisation. Voilà, donc on progresse et le temps file, file. C'est le moment de faire une courte pause musicale, chers auditeurs. Merci de vous accrocher et de rester à l'écoute à l'antenne du 107.9 FM. On vous revient dans quelques instants avec la suite de cette émission inaugurale de Dans quel monde?
À tout de suite.
Super, OK. Donc jazz, jazz, jazz.
Moi, je veux juste regarder rapidement l'article parce que lui, je l'ai pas eu le temps de le lire.
Okay.
Je vais te laisser plutôt le...
Dans le sens que tu vas voir que c'est facile surfer là-dessus parce que, dans le fond, c'est au lieu de donner du poisson à ton prochain, montre-lui plutôt comment pêcher.
Ah non, pas celui-là, c'est celui de Hydro que je connais
pas. Ah, le Hydro, OK. Mais Dear Premier, tu l'as lu?
Oui, je l'ai lu.
OK.
Oui.
Veux-tu accueillir l'auditeur?
Oui, OK. Don't promote food banks. Nous voilà de retour sur les ondes de CILS FM 107,9 au cadran avec Alexis Gagnon et Marie-Hélène Bourret. Vous êtes à la première de l'émission « Dans quel monde? » Et on a choisi aujourd'hui 4 articles pour vous. Nous en sommes à notre 3e. C'est dans le Taï, thetaï.ca, qui est un journal...
Notre journal de prédilection.
De prédilection.
Ici, pour les nouvelles provinciales, en tout cas.
Ouais. Alors, celui-ci, c'est « Dear Premier, don't promote food banks and the need for them. » C'est un article de Graham Riches.
Traduction.
Alors, cher Premier ministre, ne faites pas la promotion des banques alimentaires, mais mettez-y plutôt fin.
Oui.
Alors, pourquoi?
Oui, pourquoi?
Alors, le premier, Horgan, a fait un tweeté juste avant les fêtes, juste avant Noël. Il a demandé aux gens, aux Britanno-Colombiens, d'être généreux en cette période de l'année, de donner plus aux banques alimentaires. C'est un beau geste en soi.
A priori, ça semblait légitime, mais moi, je trouve que c'est un tweet qui l'a démasqué.
Oui. Absolument. Alors, c'est se faire preuve de compassion. On veut collaborer, on veut aider les autres humains, donc la planète entière, l'humanité.
Oui. Tu voulais pas employer le terme chrétien de « le prochain » ».
Ouais, c'est ça que j'hésitais dans ma tête.
Mais moi, je trouve que ce tweet-là, dans lequel il invitait les citoyens de la Colombie-Britannique à faire un don durant la période des fêtes, j'ai trouvé que c'était un aveu d'échec.
Et dis-moi pourquoi.
C'est un aveu d'échec parce que c'est le premier ministre qui est à la tête d'une formation progressiste avec une fibre sociale très prononcée,
dit-il,
historique.
Oui.
Alors, c'est ce qu'on suppose.
Ouais, oui, c'est pour ça qu'on a
voté.
Il
singe les politiques de droite, en fait, les politiciens et les politiciennes de droite qui, justement, à l'époque de Noël, font une espèce de façade de compassion durant quelques jours et on les voit photographiés dans les banques alimentaires, serrant la main des pauvres hères qui gelaient dans le froid 2 heures avant.
Ouais, alors, un peu à l'exemple.
Il faut avoir une vision globale.
Ouais.
C'est le NPD après tout.
Ouais.
Donc, on attend du NPD une vision globale, une politique qui va justement mettre fin à la pauvreté. C'est ça l'ambition.
Alors, faut dire qu'en Colombie-Britannique, il y a un enfant sur 6 qui a faim.
Carrément.
Et ça représente, on dit, un 500 000 de Britanno-Colombiens.
Qui sont en insécurité alimentaire permanente.
Permanente. Alors ça veut pas dire, j'ai pas d'argent pour passer au McDo, là. Ça veut dire que j'ai plus rien dans mon frigo. Si les services sociaux viennent chez moi à ce moment-ci, ils vont m'enlever mes enfants parce que je suis pas capable de les nourrir.
Oui.
C'est ça l'insécurité alimentaire.
C'est ça.
Et ici, le problème, en plus, il y a un problème énorme, c'est que le gouvernement libéral précédent s'était retiré d'une espèce de liste. Il y a une espèce de liste.
Oui,
un index.
Une base de données.
C'est ça, qui nous dit combien de personnes sont dans la pauvreté, ils ont besoin de quoi, patati, patata.
Ça, c'est un classique, en fait. Hein?
Oui.
C'est comme quand Harper se retirait de certains instruments de mesure du changement climatique ou quand il a essayé de tronquer le formulaire de Statistique Canada et il n'y a pas réussi.
Oui.
Donc, dans cette lignée de mesures de désinformation, Christy Clark avait retiré la province d'une base de données.
Elle était vraiment une experte là-dedans.
Oui.
Alors, ce que ça fait en se retirant de ça, c'est que le seul chiffre qu'on a, c'est le chiffre des gens qui vont dans une banque alimentaire.
Oui.
Il y a beaucoup de pauvres travailleurs.
Les
travailleurs pauvres qui ne peuvent pas aller dans ces banques-là. C'est un aveu d'échec. Ces gens-là travaillent 35 heures, 40 heures semaine et ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Et c'est des gens qui ont un cœur énorme, qui ne veulent pas dépendre justement de ces services-là.
Et quand on nous dit que le chômage est en baisse, il faudrait toujours, mais dans le même souffle, dans la même phrase, dire combien il y a de travailleurs pauvres.
Oui.
Parce que ça, c'est une donnée fondamentale. Le chômage baisse dans certains États, dans certaines juridictions, mais le nombre de travailleurs pauvres augmente.
Parce que, un, c'est souvent des emplois précaires, à temps partiel, à salaire minimum. Alors, on ne peut pas vivre ici en Colombie-Britannique avec le salaire minimum et être OK. Le fait aussi qu'il y a des gens qui doivent vivre sur l'aide sociale pour des raisons de santé, de maladie mentale, de maladie physique, un problème temporaire, peu importe. Mais les montants qui sont alloués à l'aide sociale n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans.
Ils sont pas indexés. Hein?
C'est pas indexé. Alors, on dit que le salaire minimum de 1973, quand on l'amène
en dollars constants,
c'est la même chose.
Oui.
Ça n'a pas évolué, donc ça n'a pas suivi l'augmentation du coût de la vie.
Ça n'a pas suivi l'augmentation du coût de la vie. Et pour revenir aux banques alimentaires, Marie-Hélène, elles n'ont jamais eu vocation à devenir permanentes.
Non.
Une banque alimentaire, par définition, c'est un band-aid, c'est un sparadrap, c'est un pansement sur une plaie. Ça doit être temporaire. Il faut une société...
Mauvais coup de chance, tu perds ton job, t'es 2-3 semaines, là,
voilà.
Bon. OK.
Alors, nos gouvernements, partout en Occident,
Oui.
se sont appliqués à déconstruire l'édifice social qui
Oui.
avait été bâti dans les années 60, qui n'était
Oui.
pas déjà très solide.
Oui.
Alors, ils l'ont détricoté, ils l'ont progressivement dégriffé.
Oui.
Et les banques alimentaires, justement, sont plus prospères que
Oui,
jamais, entre
oui,
guillemets, et
oui.
c'est avec ironie qu'on dit ça.
Ben parce que si c'était, je veux dire, si on le calcule selon le capitalisme, ils font des affaires d'or, les banques alimentaires, parce que la population qui doit dépend de ça. Et moi, j'ai dû avoir recours à la banque alimentaire il y a 2 ans pendant une couple de semaines. Et je vais dire franchement, j'ai été très heureuse, très reconnaissante de pouvoir l'utiliser. Cependant, c'est pas avec ça qu'on fait des enfants forts qui vont être
Non.
capables d'aller à l'école, là.
Et pour reprendre l'expression du chroniqueur Graham Riches dans cet article intitulé Dear Premier, don't promote food banks and the need for them. Donc,
Ouais.
pour reprendre une expression qu'il écrit dès l'entête de son article, We can do better. On peut faire mieux. C'est
Ouais.
pas ça la politique d'un gouvernement
Non.
qui se soucie de tous les
Ouais,
Britanno-Colombiens.
voilà, c'est bien dit.
Alors, on a peut-être une minute en fin
Je
d'émission.
te laisse le couvrir.
On va simplement vous indiquer le titre de cet article qu'on n'a pas eu le temps de traiter. C'est à propos des tarifs d'électricité en Colombie-Britannique. Donc, BC Hydro, il y aura bientôt un gel des tarifs. On finit sur une note
Absolument.
positive. Donc, le gouvernement Horgan va tenir sa promesse, une promesse qui avait été faite en campagne, donc de geler les tarifs d'hydro. Il faut attendre de le voir pour le croire, ça n'est pas encore fait.
Je suis sûre qu'on y reviendra dans les émissions ultérieures de Dans quel monde?
Oui, sûrement. Et là-dessus, chers auditeurs, on va terminer cette première émission. Espérons que vous l'avez appréciée. On est à votre service, donc on est là pour vous fournir de l'info, info locale, info nationale, info internationale.
À la prochaine.
À la prochaine. Merci.
Au revoir.